quotidien, il faut que les pays du Sahel entre eux, les pays du Maghreb entre eux et les pays du Sahel et les pays du Maghreb s'entendent sur un certain nombre de politiques, de points, d'échanges d'informations, d'harmonisation de certains règlements pour qu'il y ait une cohérence. On ne lutte pas contre des trafics transnationaux par des politiques nationales. Et puis si on arrive à ce que le flux de cocaïne ou de haschich ou d'armes aille dans le pays voisin et passe plus par chez vous, évidemment c'est une victoire nationale, mais c'est une défaite régionale. Donc ces questions ne peuvent être réglées qu'à un niveau régional. Mais le problème, c'est qu'au nord, soit on est avec l'Algérie, soit on est avec le Maroc. Et quand une réunion est organisée en Algérie, les Marocains ne sont pas conviés. Quand une réunion est organisée au Maroc, les Algériens ne viennent pas ou ne sont pas conviés. Donc on ne sort pas de cette rivalité très très forte qui nuit à un règlement régional de cette question.
Quelle nation, quel pays peut jouer un leadership pour essayer de construire un peu une coopération régionale ?
L'Algérie, évidemment, est au centre de toutes ces questions. Elle est un leader, un potentiel leader régional important. Mais le passé récent nous enseigne que l'Algérie a essayé de mettre en place des structures régionales qui sont restées des coquilles vides, en réalité. On a l'impression que l'Algérie a mis en place sa stratégie d'être un pays leader contre la lutte contre le terrorisme, contre les trafics, simplement pour exclure d'autres pays. Côté algérien, il y a une contradiction que les autorités algériennes devront à un moment ou à un autre lever.
Cette réunion fait suite à la réunion de Tripoli qui avait eu lieu en mars 2012. Un an et demi après, quelle est l'évolution des problématiques de la criminalité, du terrorisme et de l'immigration illégale dans cette région du Sahel ?
Au niveau de la criminalité organisée et des trafics, il y a très peu de choses qui ont évolué parce qu'on a toujours des politiques nationales et très peu de coopération. On voit toujours circuler des convois de cocaïne, de haschich, du trafic d'essence, de denrées alimentaires. Tout en disant cela, évidemment, j'ai bien conscience que ces trafics ne se valent pas. C'est pas la même chose que de faire de la contrebande d'essence et de trafiquer de la cocaïne. Néanmoins, on a l'impression que ponctuellement, on peut avoir, par exemple, en ce moment, l'Algérie semble redoubler d'efforts sur le contrôle de ses frontières, notamment pour contrer les trafics et pour prévenir l'installation de groupes djihadistes au sud de son pays, mais il y a très peu d'harmonisation, en fait. Et il y a surtout beaucoup de méfiance entre les pays. Si on prend l'exemple terrible de ces Nigériens qui sont morts de soif à la frontière algérienne, on voit qu'il y a toujours des réseaux transnationaux qui réussissent à faire rentrer dans les pays du Maghreb des migrants subsahariens, qui d'ailleurs de moins en moins arrivent à accéder en Europe et de plus en plus s'installent dans les pays du Maghreb. Donc là encore, il y a un besoin important que ces pays se coordonnent sur cette question aussi. Et d'ailleurs, ces réseaux, souvent, sont dans la polyactivité, c'est-à-dire ils peuvent très bien aujourd'hui s'occuper de migrants et demain de produits de trafic. Donc ces réseaux sont toujours actifs, ils ont des protections, malgré toutes les déclarations des différents présidents, des différents responsables de la sécurité. Maintenant, c'est vrai que les pays du Maghreb ont considérablement durci les conditions pour les migrants.
La France participe également à cette réunion internationale. Quel est votre bilan de l'intervention militaire au Mali sur le terrorisme dans la région ? Est-ce qu'il l'a renforcé ? Est-ce que ça n'a rien changé ? Ou est-ce qu'il a quand même porté un coup rude à ces organisations ?
On peut dire que l'opération Serval a rempli les différents objectifs qu'elle s'était fixés. C'est-à-dire les objectifs, c'était d'arrêter la progression de ces groupes vers le sud, parce qu'il faut se rappeler qu'en janvier, ces groupes allaient vers le sud et vraisemblablement voulaient s'emparer de la capitale Bamako. Donc c'est un premier succès. Le deuxième objectif, c'était non pas de faire disparaître ces mouvements, parce que c'est pas possible, mais de leur porter des coups très rudes, notamment au niveau de leurs moyens logistiques. D'où les combats assez rudes et les découvertes de caches d'armes, de fabriques d'explosifs dans un massif au nord-est du Mali. Maintenant, il était évident, et jamais personne n'a prétendu le contraire, que l'opération Serval toute seule pouvait résoudre tous les problèmes au nord du Mali. Un certain nombre de gens d'ACMI et des autres mouvements, c'est-à-dire Ansardine et Mujao, ont été neutralisés. Certains ont été tués, dont certains ont été arrêtés, mais ça ne met pas fin à leur existence. Certains se sont réfugiés dans les pays voisins, ils sont en train de revenir au Mali, ils sont en train de se réorganiser. Le problème va rester pendant vraisemblablement des années. Et il n'y a aucun moyen, avec une si petite quantité d'hommes, je ne parle pas seulement des Français, mais aussi de l'armée malienne et de la MINUSMA, à régler définitivement ce problème au nord du Mali. C'est actuellement impossible. On peut le maintenir à l'écart des zones habitées, mais il y aura toujours des accrochages et des problèmes.